Très bien, ben je vous propose qu'on commence donc cette rencontre débat d'aujourd'hui. Donc comme vous le savez, le thème de cette rencontre s'intitule Art numérique et recherche, quelles interactions? Alors autant vous dire tout de suite que dans une heure, on n'aura certainement pas répondu de façon exhaustive à cette question qui est vaste, qui est vraiment donc déjà interdisciplinaire, multidisciplinaire, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, tellement elle couvre finalement différentes dimensions de notre vie culturelle, scientifique, spirituelle, etc. Le point fédérateur peut-être entre l'art, la recherche, la science, c'est quelque part la quête de la connaissance par différents biais, la connaissance de soi, la connaissance des autres, la connaissance du monde qui nous entoure. Et donc on voit bien que dans cette quête, eh bien, il y a certainement des démarches communes et des sources d'enrichissement mutuel qu'il convient de creuser. Et c'est un petit peu de ça donc qu'on va essayer de débattre humblement, je dirais, aujourd'hui avec nos intervenants. Les questions, par exemple, qu'on va poser peut-être un peu plus prosaïquement, c'est quel genre de lien on peut imaginer entre les arts numériques, la recherche, comment les applications des sciences du numérique peuvent éventuellement servir dans le domaine de la création, et puis inversement, comment le processus artistique peut apporter des choses aux chercheurs dans sa démarche scientifique. Donc, quelles modalités de collaboration on peut imaginer entre les chercheurs et les artistes pour que les deux process puissent s'enrichir mutuellement. Et donc, comment sciences, arts peuvent s'alimenter dans une démarche de création, ou peut-être d'ailleurs le jeu peut avoir sa place, et on verra comment certaines expériences justement peuvent attester de ce fait. Voilà, donc pour un petit peu donc animer cette réunion. Donc, moi, je jouerai un petit peu le rôle de Monsieur Candide dans l'histoire, puisque je vais surtout être là pour un petit peu animer les interactions entre vous et les intervenants. Mais donc, on a trois intervenants qui vont successivement présenter certains aspects de la démarche sur la question. Et entre ces interventions, eh bien, on souhaite justement susciter de votre part aussi des réactions, des remarques ou des compléments, ou avoir votre point de vue. Donc on a d'une part Gaëtan Alain, là-bas, qui est gérant, voilà, qui est gérant de la société
Bonjour à
Saga.
tous.
Oui, bah, bonjour, bonjour Gaëtan, qui est gérant de la société Saga, qui est à l'origine donc de l'organisation du festival Les Bouillants. Et la rencontre d'aujourd'hui, c'est une joint venture entre Les Bouillants et le laboratoire. Et donc, Gaëtan nous présentera un petit peu donc, la démarche qu'il y a derrière ce festival Les Bouillants les intentions et les finalités. Ensuite, donc, on a Bruno Arnaldi, que beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr, qui est chercheur à l'IRISA dans l'équipe hybride et qui donc, viendra illustrer par un certain nombre d'exemples des interactions fructueuses entre l'art numérique et la recherche. Et ça permettra également donc, de discuter un petit peu de votre ressenti de ces exemples. Et puis, donc, le troisième intervenant aujourd'hui sera Seb Lee de Lille, qui a eu donc déjà qui nous a fait l'honneur d'inaugurer l'œuvre qui est installée dans le hall du laboratoire et qui est donc, comme vous le savez donc probablement déjà, artiste numérique. Il vit à Brighton et il s'intéresse plus particulièrement donc au lien entre technologie interactive et art numérique, et notamment par l'intermédiaire de jeux collaboratifs, comment est-ce qu'on peut créer des œuvres d'art collectives à partir du détournement ou de l'exploitation d'interfaces de type ludique. Voilà. Donc voilà nos trois intervenants du jour, mais vous êtes aussi les intervenants du jour, c'est-à-dire qu'on va ponctuer, bien sûr, on va alterner entre des éléments de présentation à votre intention, mais aussi vos réactions. Et tout ça, il va falloir le faire tenir en une heure. Donc, bien sûr, il y aura des contraintes. Mais en même temps, donc, vous pouvez déjà anticiper que vous serez partie prenante à cette rencontre. Donc, ben, sans plus tarder, je vais donc passer déjà donc la parole à Gaëtan. Hein. Donc, comme je le disais, Gaëtan est un des co-organisateurs du festival Les Bouillants. Derrière ce festival, il y a un certain nombre d'intentions. Bon, déjà, il y a une historique, je pense, mais il y a aussi un certain nombre d'intentions autour des liens entre la science, l'art, les usages et comment finalement faciliter l'appropriation des techniques numériques pour certaines démarches artistiques et vice-versa. Donc je pense que Gaëtan va en parler bien mieux que moi et je vais donc lui laisser la parole pour qu'il nous parle un petit peu de cette expérience Les Bouillants.
Alors Bouillant, très succinctement, autant savoir d'où ça vient. C'est alors Bouillant est la rencontre avec un territoire. Bouillant, Avernes-sur-Seiche, un site naturel préservé qui est aux portes de Rennes. On s'inscrit donc dans la métropole. On a rencontré une volonté politique qui était de voir dépérir en sa géographie un site qui avait un patrimoine, une histoire industrielle, une ancienne laiterie, et une volonté d'en faire autre chose qu'un lieu destiné à des promoteurs. Nous avons rencontré donc à l'époque le maire de Verne, cet élu, pour nous une volonté d'implantation structurelle, puisque je représente donc une société qui fait de l'ingénierie culturelle et de la production d'événements. Et nous avions besoin de nouveaux locaux. Ces concours de circonstances, ces beaux fruits du hasard, a généré une réflexion autour de ce bâtiment, donc de 1200 m², qui est devenu le cœur de la manifestation. La volonté de faire que ce bâtiment ressurgisse à nouveau nous a amené à être inscrit dans une volonté généreuse. D'un espace qui serait dédié à une posture citoyenne. Comment, sur le territoire de Verne, présenter un espace en lequel tout à chacun se sentirait chez lui et suffisamment stimulé pour pouvoir poser les questions, des questions qu'il taraudrait par rapport à une posture contemporaine. Cette dimension citoyenne, cette dimension contemporaine nous a amené à très rapidement considérer que le numérique, dans un premier temps, était un environnement et un sujet indispensable à aborder. Et dans un deuxième temps, le levier d'une création artistique, comme premier élément déclencheur d'une sorte de pensée libre, nous a paru là encore assez rapidement une évidence. À monter ce dispositif, dans cette volonté de pérennisation, on a donc frappé aux portes des différentes collectivités et on s'est aperçu assez rapidement que la définition et la compréhension du dispositif étaient complexes puisque nos interlocuteurs étaient nombreux et chacun avec des vues un peu différentes, peut-être complémentaires, sûrement complémentaires. Donc on s'est dit, soyons dans l'exemple. Soyons dans la construction de notre pensée et façonnons en réduction ce que nous voudrions faire en grand et en quotidien. On a donc façonné l'édition Bouillant chapitre 1, il y a 6 ans de cela, avec déjà des éléments qui ont permis sur lesquels on continue à s'appuyer, c'est-à-dire une volonté de démocratisation qui passe par la gratuité absolue de la rencontre avec notre travail, la volonté d'être dans une approche qui ne soit pas, qui soit dans la construction même avec une organisation aussi associative de l'engagement. C'est pour ça que est né Le Milieu, l'association avec qui nous travaillons sur l'objet. Et une thématique donnée chaque année. Une thématique pour éviter une sorte de fourre-tout, ou de comment on aurait pu se noyer dans la tentative d'expliciter le monde du numérique et ses usages et son apport technologique et la diversité des propositions énoncées dans une dimension quasiment infinie. Donc une thématique, on a décidé d'une thématique, on a décidé d'une gratuité, et on a décidé aussi rapidement de considérer que les jeunes générations étaient aussi un sujet d'approche et une réflexion de fond. 6 ans après, nous sommes donc sur un dispositif qui existe pendant 2 mois. Nous sommes dans une posture nomade qui va au-devant des publics et n'attend pas que ceux-ci viennent à nous. Nous sommes sur une programmation internationale qui fait venir entre 15 et 20 artistes d'envergure internationale pour parler et présenter à un public lambda de 2 à 98 ans une pensée et une production numérique sensible. J'entendais bien que je tire à grands traits la présentation, parce que le temps nous est un peu compté, mais le projet Bouillant, si j'ai à m'arrêter quelques minutes avec vous pour le considérer, je dirais qu'il a vraiment rencontré la curiosité attendue, c'est-à-dire que le public est de plus en plus nombreux à pratiquer Bouillant. C'est un vrai rendez-vous. Il a rencontré une vraie, et il a répondu dans une certaine mesure à une vraie attente, de toute évidence. Là encore, je me réappuie sur la curiosité naturelle d'un public, lambda, mais je m'appuie aussi sur les différentes collaborations qu'on a pu avoir depuis que le dispositif existe, et je considère que la collaboration que nous commençons avec l'INRIA cette année est complètement emblématique du sujet. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un endroit où la reconnaissance, la tessiture même, la matériologie, j'allais presque dire, de notre dispositif, permet à ce que l'INRIA, qui est un institut particulièrement élaboré, avec une pensée particulièrement structurée dans la considération de sa mission, puisse trouver un intérêt à venir alimenter et participer de cette mise en place de Bouillant. Parce qu'il s'agit bien de cela. Il ne s'agit pas uniquement d'être dans nos collaborations, dans la forme de collaboration, d'être dans une façon de profiter d'un contexte pour rencontrer un public diversifié. C'est plutôt vraiment considérer qu'on est dans une pluralité d'approches et que tout à chacun, quelle que soit sa définition et sa façon de participer d'une réflexion autour du numérique, a quelque chose à dire et à pratiquer pour le bien commun. Je pense sincèrement que cette dimension citoyenne de démocratisation et d'ouverture des savoirs est une absolue nécessité en ces temps troubles. Nous avons au sein de Bouillant un propos résolument politique qui porte cette pensée et qui façonne notre façon de travailler et qui sculpte les dimensions et les reliefs de ce projet qui, à mon sens, n'est que dans les balbutiements de ses possibles. Je rêve très concrètement de ce que Bouillant puisse très rapidement devenir donc un espace pérenne, mais un espace qui aurait autant de reconnaissance et donc par là même de moyens donnés par la collectivité pour faire que, à l'instar d'un institut tel que le vôtre, on puisse être dans la fabrique d'aujourd'hui et de demain avec un public néophyte. Les thématiques abordées, le jeu de façon un peu insoupçonnée nous amène à rencontrer par exemple le monde de la science. Nous avons eu déjà des thématiques qui ont côtoyé la science. Et finalement, nous n'avons pas tant une thématique qui nous oblige à côtoyer au quotidien la science, nous avons plutôt un objet qui est le numérique et l'artistique qui implacablement côtoie la science au quotidien. On va le développer.
Non, oui. Non, c'est, il y a un petit temps de latence. Très bien. Donc, merci pour cette présentation des intentions du concept bouillant. Est-ce qu'il y a des réactions de votre part par rapport à justement la façon dont ce concept que vient de nous présenter Gaëtan Alain s'articule avec soit des expériences que vous avez déjà pu avoir d'interaction avec du contact plus direct avec les citoyens dans le cadre de manifestations scientifiques ou dans le cadre artistique. Vous avez la parole, est-ce que vous avez des questions ou des réactions par rapport à cette première intervention ? Que ce soit sur le concept lui-même ou sur un partage d'expériences similaires que vous avez pu avoir vous-même dans votre pratique quotidienne. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà participé à des activités, par exemple, de rencontres avec le public, que ce soit sur le terrain artistique, sur le terrain de la vulgarisation scientifique, ou en tout cas tout ce qui permet d'aller un petit peu donc à la rencontre du public et qui permet au public de s'approprier un petit peu donc les travaux qui se font dans les équipes?
C'est la rencontre des publics, puis c'est la rencontre aussi avec des artistes. Nous en parlions tout à l'heure. La réflexion de Bouillon, finalement, est déjà existante. Ça me ramène à la rencontre avec Bernard Marquet ou Gwen Potard à l'époque où on a commencé à fabriquer Bouillon. C'est des gens qui travaillaient ou qui travaillent encore anciennement à Orange. Et d'avoir cette expérience qui m'a été citée de Orange Lab, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, une bonne intelligence d'esprit de la part d'une institution telle que Orange, qui travaille sur les nouveaux médiums de communication de demain et qui a décidé d'ouvrir pendant un temps. Ça n'est plus, hélas, hein, mais il y a une époque au sein de Orange, on avait un labo en lequel ils ont fait des résidences d'artistes et des résidences d'artistes qui venaient pratiquer les outils que Orange était en train d'essayer de façonner pour perturber justement leur pensée technique et scientifique et arriver à une dimension qui les dépassait et qui laissait entrevoir les usages de demain par ces pratiques des artistes. Je pense que Bouillon peut aussi être une façon d'entrevoir et peut aussi être dans une certaine mesure un creuset d'une forme interrogative par rapport à des usages attendus. Lunar 13 est par exemple un bel exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Bien. Des réactions alors vous voulez ajouter quelque chose ? D'accord, tout à fait. Donc, on va donc passer à ce moment-là à la deuxième présentation. Donc, c'est maintenant donc Bruno qui va nous présenter un panorama d'un certain nombre d'expériences, d'exemples, de projets qui ont vu converger certaines recherche et certaines technologies avec un processus de création artistique. Et ça, ça n'a pas, bien sûr, vocation à être exhaustif, bien sûr, mais plutôt, je dirais, représentatif d'un certain nombre de choses qui ont pu se faire ou sont en cours de réalisation et qui susciteront certainement chez vous pas mal d'intérêt. Donc, Bruno, tu as la parole.
Merci, Frédéric. Donc, en passant rapidement, qu'est-ce que je fais là ? Donc je suis prof INSA, je travaille un peu dans la maison et dans le circuit, donc il y a pas mal de gens ici qui me connaissent. Et en tout état de cause, je ne suis pas historien des sciences et je ne suis pas historien de l'art, et je ne suis pas artiste non plus. Donc en gros, on peut se poser la question, qu'est-ce que je fais là ? Comme l'a rappelé Frédéric, je vais essayer de mettre en perspective quelques éléments, quelques exemples, je ne peux pas théoriser sur la question, et en tout état de cause, je vais essayer de vous montrer quelques éléments de démarche. Par contre, je travaille dans une équipe qui traite de réalité virtuelle, l'équipe hybride, et donc par ce mécanisme-là, je suis éminemment intéressé par le sujet. Alors il se trouve que les arts numériques est un courant qui est évidemment récent, puisque le numérique vis-à-vis de l'histoire des arts et même de l'histoire des sciences est quelque chose de relativement récent. Et donc j'ai essayé de placer ici quelques jalons, histoire de mettre quelques pierres vis-à-vis de l'évolution temporelle. Et en particulier, il y a des éléments assez majeurs, comme un festival qui s'appelle Ars Electronica, donc qui a été créé en Autriche en 79, et qui s'est traduit ensuite par un centre dans lequel on a des artistes en résidence et qui fabriquent des performances ou des œuvres qui sont évidemment dans le domaine du numérique. On a aussi, un petit peu plus près, Imagina, hein, qui a été une exposition, conférence, exhibition, avec un certain nombre d'œuvres aussi qui ont été présentées avec des systèmes de type art show, tels que Sigraph l'a monté, donc Imagina, c'est 86. Et puis, un peu partout dans le monde, hein, des centres d'art moderne qui se dédie aux arts numériques, hein, Tokyo, Montréal, Rotterdam. Ce sont quelques exemples, évidemment, on ne peut pas être exhaustif sur ce genre de choses. La France n'est pas très, comment dirais-je, elle n'est pas absente du tout de cette manière de voir. Donc l'IRCAM a été créé en 1974, hein. J'y reviendrai sur quelques exemples tout à l'heure concernant l'IRCAM. On a aussi quelqu'un comme Michel Brett à Paris 8 qui a développé très tôt des systèmes dédiés utilisateurs, dédiés art numérique. Et quelque part, donc Michel est un scientifique, hein, c'est un informaticien, mathématicien. Et quelque part, il était en réaction à ce moment-là à l'esthétique implicite imposée par les ingénieurs. Et donc c'est en réaction, il travaillait sur quelque chose qui était plutôt du domaine de l'art. Je citerai aussi, parce que c'est aussi quelqu'un que je connais, Maurice Benayoun, hein, donc Zeda Productions, créé en 87, qui a créé un certain nombre d'œuvres ou d'éléments que vous connaissez peut-être, avec des titres tout à fait évocateurs, tels les quarks, Dieu est-il plat, le diable est-il courbe. Donc ça vaut le coup d'aller regarder un peu ce que fait Maurice. Il y a des choses assez étonnantes dans sa production artistique. Aujourd'hui, Maurice se partage entre Singapour et Paris. Si on réfléchit un tout petit peu sur le processus et sur les acteurs, donc évidemment, hein, la recherche d'un côté et le côté artistique numérique de l'autre, il y a évidemment quelque part une démarche en synergie avec d'un côté le chercheur qui va faire des contributions méthodologiques, qui va essayer d'inventer des nouvelles théories avec pour l'informatique des algorithmes, des nouveaux procédés technologiques qui vont se traduire par une mise en œuvre technique qui est indispensable, hein, cette mise en œuvre étant matérielle et ou logicielle, avec la réalisation de prototypes, avec le fait d'être capable de valider expérimentalement que le concept de base fonctionne, et ensuite ces éléments technologiques qui sont issus de la recherche peuvent être utilisés et malaxés et mélangés, on pourra en discuter tout à l'heure, sur le côté artistique des choses, avec un projet artistique par une intégration technique évidente, comme on l'a montré dans l'œuvre qui a été inaugurée tout à l'heure de SEM, et puis évidemment exposition au public ou performance. Donc tout ça est une démarche qui est intéressante avec des acteurs notablement différents, et c'est intéressant de décortiquer un tout petit peu. Si on cherche d'un point de vue historique, l'histoire, évidemment, regorge d'exemples. J'en ai pris qu'un parce qu'il est quand même assez fameux. C'est le célèbre Léonard, 15e siècle, je vous rappelle. Et parmi les foultitudes d'éléments inventés par Léonard, qui a un impact sur le plan artistique, je citerai un élément qui n'est peut-être pas le meilleur, mais qui est au moins un élément saillant, c'est ses travaux sur la perspective. C'est quand même un chercheur artiste, parce qu'il était les deux, ou scientifique artiste, qui a, et puis qui était excellent dans les deux, hein, je signale quand même que c'est assez exceptionnel, a révolutionné finalement la manière de peindre et la manière de présenter les choses sur la perspective dite aérienne, dans lequel il couple une perspective géométrique. Hein, sur la figure en bas à droite, vous avez quelque chose qui pour nous est très classique, et à l'époque ça ne l'était pas du tout, c'est une perspective centrée avec un point de fuite. Ce n'était pas tout à fait classique à l'époque. Et il a aussi ajouté à ça une perspective, à ce qu'il lui appelait la perspective, au niveau de la gestion des couleurs et la gestion de l'effacement. Et donc ce qui donnait à ses œuvres un caractère tout à fait spécifique. Il faut savoir aussi, mais vous le savez, que c'est quelqu'un qui a énormément produit en mécanique et en anatomie, et c'est le moins que l'on puisse dire. Donc c'est déjà évidemment un lien art-recherche, mais évidemment pas numérique. On commence à rentrer dans le numérique avec un autre élément qui me paraît assez intéressant, c'est Mandelbrot, donc un mathématicien franco-américain, puisqu'il a été dans les deux pays. Il a étudié à Polytechnique et il est parti ensuite chez IBM, avec un papier fondateur qui date de 67 et qui introduit finalement un objet mathématique un peu curieux, qui est un objet géométrique dont la dimension n'est pas entière, qui à l'époque était un petit peu une révolution aussi. Et donc, quelque part, c'est pas une droite, c'est pas une surface, c'est quelque chose qui est plus compliqué et qui est un objet mathématique de dimension, comment dirais-je, non entière, et qui amène la théorie fractale et la notion de forme récursive. Et donc, il y a des structures en 2D, en 3D. Ça permet, sur le fond, d'un point de vue technique, de modéliser de manière tout à fait agréable des montagnes. Mandelbrot a produit effectivement les prémices des algorithmes de modélisation de montagnes, comme vous avez en bas à droite, les notions de plantes avec la récursivité, les L-systèmes tout à fait bien connus, modélisation du type éclair. Donc on a évidemment dans ce domaine-là des choses assez intéressantes d'un point de vue scientifique qui ont ensuite évidemment rayonné sur l'usage d'artistes qui ont évidemment exploité le principe fractal. Donc j'en ai donné ici deux exemples, hein, Jean-Claude Ménard et Jérémy Brunet, donc avec à la fois des illustrations d'œuvres, hein, qui sont des œuvres de ces artistes, qui exploitent de manière extrêmement forte, évidemment, la fractalisation, la récursivité, et qu'elle soit sur du 2D, sur du 3D, sur des objets, ça se déploie dans l'espace, dans les formes, dans les couleurs, et ça permet évidemment énormément de variations autour de ces sujets. Je ne peux pas oublier évidemment un artiste dont une œuvre se situe pas très loin d'ici dans l'escalier, donc Marc Fornes. Alors, quel est le lien avec la science? C'est un artiste qui travaille sur une notion tout à fait particulière de scripting, qui fait évidemment éminemment référence à du logiciel. Et quelque part, vous connaissez tous l'œuvre de l'escalier, et sa forme est un calcul d'arc en tension. Donc c'est de la mécanique et de l'équilibre de force qui crée cette forme tout à fait particulière. Et on a sur la surface un algorithme de génération qui, à partir de graines et d'un système multi-agent, va équilibrer les choses pour fabriquer les motifs jaunes et noirs que vous connaissez sur la forme. Et tout ça, évidemment, c'est de l'algorithme, c'est lié à des travaux scientifiques, à des travaux qui sont maintenant passés dans le côté technologique puisque les algorithmes sont utilisés. Et Marc Fornes, évidemment, exploite ça de manière assez large, évidemment.
Excuse-moi, je me permets une petite intervention considérant qu'il n'y a pas que des chercheurs de l'INRIA qui sont présents dans la salle. Donc il y a une pièce qui a été commandée et achetée et mise en place dans le bâtiment de l'INRIA et qui est dédiée avant tout au quotidien des chercheurs de l'INRIA. Et de temps en temps qui s'ouvre aussi au public, plus généreusement. Mais voilà un geste aussi inscrit dans une volonté de démocratisation, on va dire, d'un quotidien artistique auprès des chercheurs. Bravo, patron.
Merci pour cette précision, Gaëtan. Donc j'ai parlé de l'IRCAM, Institut de recherche en coordination acoustique et musique. Donc ne serait-ce que dans le titre de l'Institut, on a les deux composantes, hein, recherche et musique. Donc on fait le parallèle de manière évidente. Je fais référence ici aussi à des gens que je connais de l'équipe Interaction Musicale Temps Réel, hein, qui est dirigée par Frédéric Bévilacqua. Et le but du jeu ici, c'est de créer, c'est d'utiliser des méthodes et des techniques pour créer des interactions nouvelles entre le mouvement et le processus de génération de sons et plus généralement de musique. Dans l'équipe, il y a évidemment des collaborations très très fortes avec des gens du domaine de la technique et des chercheurs, évidemment, ça se traduit par des publications, et des compositeurs, des interprètes, des chorégraphes et des danseurs qui prennent la technologie pour l'utiliser à leur fin artistique. Donc il y a des projets que je ne vais pas trop détailler ici, évidemment. Je pense à Modular Musical Objects, hein, et Urban Musical Game, qui sont des choses assez intéressantes à regarder avec des objets technologiques, des avancées sur le plan méthodo et des résultats, je dirais, artistiques intéressants. Clin d'œil quand même, c'est aussi des projets qui peuvent faire autre chose que de la musique, et en particulier, cette équipe s'intéresse à des applications dans le domaine de la rééducation, donc avec un impact sociétal. Alors ici, c'est un truc intéressant. Vous connaissez tous la robotique manufacturière, c'est des choses que vous voyez dans des reportages à la télé, des illustrations sur Internet. Là, vous avez sur l'image de gauche un robot, enfin des robots qui sont en train de travailler à la construction d'un véhicule, le soudage, mise en place de pièces, etc. On ne peut pas dire que ce soit très artistique, c'est évident. Vous avez en haut à droite un projecteur, donc à peu près le même engin qui est au fond de la pièce derrière, et puis un petit modèle 3D. Et quelque part, on peut se demander comment, en mélangeant tout ça, on peut faire de l'art. Et donc, on va passer à une petite vidéo. Personnellement, je l'adore, cette vidéo. Mais bon, je suis peut-être trop bon public, je sais pas.
Trop sensible.
Peut-être aussi. Alors, si j'arrive à trouver la souris. Que c'est assez long, mais on voit bien là, à cet endroit-là, qu'il commence à y avoir des choses intéressantes d'un point de vue scénarisation. Je ne rentre pas dans les détails de la manière dont c'est fait, mais il n'y a pas de post-prod. Hein. C'est la caméra filme, c'est enregistré, point, et c'est en une fois. Et donc, beaucoup de scénarisation robotique. Je signale aussi un projet qui est, parce qu'effectivement, j'arrive un petit peu dans du local, un travail qui est réalisé avec quelques artistes, donc Hirohito et Etem Zakaria, et des étudiants du département électronique informatique industrielle de l'INSA de Rennes, et donc avec un enseignant qui s'appelle Maxime Pelkat. Et l'idée, c'est de concevoir une électronique analogique et numérique, des choses à bas coût, qui permet à un utilisateur de venir appréhender une forme de manière multimodale, multisensorielle, et donc avec un système qui réagit aux activités de l'utilisateur. Donc c'est un objet qui fait un peu plus d'un mètre de hauteur et qui est équipé d'un certain nombre d'actionneurs, qui est équipé de capteurs. Et quand l'utilisateur interagit ou touche ou s'approche de l'objet, il se passe des choses. Et donc, quelque part, une œuvre interactive hein, qui est un sujet intéressant. Vous pouvez aller voir le blog, hein, il y a des choses expérimentales où on voit des étudiants qui travaillent sur des petites fonctions technologiques. Jules m'aurait beaucoup m'en aurait voulu si je n'avais pas parlé de la journée sciences et musique, Frédéric aussi, puisque les deux sont impliqués. Donc, IRISA et INRIA organisent tous les ans, depuis maintenant 3 ans, une journée sciences et musique dans laquelle on a des ateliers, des exposés, des concerts, un prix jeune chercheur. Et l'idée, évidemment, c'est de regarder le mariage qui existe entre ces choses-là. Et pour, juste pour vous donner un exemple qui est assez intéressant, c'est le prix jeune chercheur 2012 par un doctorant UPMC IRCAM. Et je vous laisse juste regarder ce qu'il a produit, c'est rigolo. Donc je pense que vous avez compris le concept. L'idée, c'est d'utiliser les objets de la vraie vie pour faire de la musique partout, n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle situation. C'est aussi intéressant comme concept. Je termine mon exposé. Hein. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire des slides donc, par rapport à Gaëtan. Quelques questions, évidemment, par rapport à tout ça, c'est quelle codification on peut donner à ces éléments-là. C'est quelque chose qui est nouveau, donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur une réflexion amont en termes de codification. La peinture est codifiée, la musique est codifiée, au moins pour une bonne partie. Là, qu'est-ce que ça veut dire dans cet exemple-là ? Quelle spécificité on peut donner au fait qu'on est dans des systèmes interactifs et il y a une expérience utilisateur ? Et donc, quand moi j'utilise le système, je vis quelque chose de différent que quand c'est Gaëtan, Seb ou Frédéric. Donc ça, c'est aussi assez important. On n'a pas la même perception des choses. On est aussi dans des questions de relatives au matériel et à l'immatériel. On a effectivement des choses assez évanescentes qui sont peut-être un petit peu différentes de ce qu'on peut percevoir de l'art assez traditionnel qui construit en dur. Donc on a des choses plus évanescentes. Et ça amène immédiatement à la question de la pérennité des œuvres. Quelque part, il y a de la technologie, il y a de l'évanescent. Comment on peut figer les choses ? Qu'est-ce qui va marquer finalement ? Qu'est-ce qui va rester dans l'histoire ? Je vous rappelle que dans les peintures rupestres, on est quand même sur des dizaines de milliers d'années d'histoire. Est-ce que les œuvres dont on parle en termes de numérique vont avoir cette durée de vie ? C'est une vraie bonne question. Et donc les perspectives ou les choses intéressantes à considérer aussi, c'est évidemment favoriser les surfaces de contact entre la recherche, les sciences et les arts numériques. Ça, c'est une évidence. Vers des équipes mixtes, c'est une évidence aussi, l'IRCAM le fait. Et pourquoi pas, et évidemment c'est un truc intéressant, des artistes en résidence dans les laboratoires. Et c'est mon dernier slide, j'aimerais juste souligner qu'il va y avoir une formation assez particulière, art numérique, à l'ENS Rennes, donc qui va se monter, et ça évidemment ça rentre dans la bonne ligne de ce qui peut être intéressant à produire. Merci.
Merci Bruno. Bien. Donc, c'est le moment si vous avez quelques réactions sur ce que Bruno vient de présenter. Oui. Ah oui, attends, je vais te donner un micro.
Non, juste. Sur les équipes mixtes, en fait, ça vaut le coup de mentionner aussi l'équipe mutant d'Archiaconte, hein, dans le centre Inria Rencontre avec l'IRCAM aussi, où c'est une équipe de chercheurs, donc plutôt algorithmiques, hein, mais dans laquelle il y a des compositeurs et des interprètes de musique contemporaine. Donc je pense qu'ils font des choses aussi très, très intéressantes. Oui, hein.
Tu as tout à fait raison. Ça, c'est une vraie direction. Hein, c'est une vraie piste de synergie. Et tu as tout à fait raison de mentionner cet exemple.
Oui. Et sinon, pérennité des œuvres. J'aimerais bien réagir un peu là-dessus. Parce que quand on a discuté de l'œuvre d'art qui est effectivement là, on s'était demandé si on devait prendre de l'art numérique.
Je m'en rappelle bien.
Voilà, tu étais dans le comité, donc on en a beaucoup discuté. Et on a ici, avec l'œuvre de Sam Lee, de Lyle ou de Lille, finalement, on dit de Lyle ou de Lille ? Is it de Lyle ou de Lille ? De Lyle, merci.
Yeah. À l'anglaise, quoi.
On a en fait un exemple très intéressant d'une œuvre qui se base sur une réalisation d'il y a 30 ans. Donc, on a, je ne sais pas quelle sera la pérennité de celle-là, mais on voit quand même que ça passe pas mal de caps, ça passe des décennies.
Oui, c'est une mise en perspective, mais elle a été refaite.
Oui. Et donc, si on base une œuvre d'art sur le dernier cri de la recherche en numérique, ce dernier cri de la recherche en numérique, on sait bien que dans 20 ans, il sera totalement dépassé. Et donc, voilà, c'est un petit peu cette question-là qu'on se pose, à laquelle, évidemment, je n'ai pas de réponse.
Mais évidemment, moi non plus.
Et c'est là où cette pièce est intéressante, dans le sens où, comme je soulignais tout à l'heure rapidement en introduction, qu'est-ce qui fait œuvre dans la production du travail de Seb qui nous est présenté ? Est-ce que c'est ce travail sur la ligne de code ? Est-ce que c'est cette réappropriation d'un objet existant qui a été il y a 30 ans ? Ou est-ce que c'est cette traçabilité qui est donnée à voir et ce papier tracé ? Et je pense que là-dessus, Seb, d'ailleurs, a quelque chose peut-être à dire, sachant que c'est, si je m'abuse, d'ailleurs, ces dessins, à penser ainsi, sont de l'ordre d'une économie artistique. Est-ce que quelqu'un peut traduire à Seb ?
Ça ne va pas être facile, mais on peut essayer. So the question is because we're discussing, in fact, of how digital work can last in time, and one question was in your particular artwork that you have demonstrated just before this session, what would you consider as being the part of the artwork which is going to last? Is it the concept? Is it the device, or is it the result of the that have been produced with the device? And how do you place, in fact, your approach in the long term and the result of the artwork in the long term?
Well, I think that to expect digital art to last is silly, right? It's not going to last. In fact, curators now are finding it very difficult to archive and keep the digital artwork from 10, 20 years ago. You know, they're actually now only just beginning to understand that they need to create emulation for those old computers. My piece Outside, for example, you know, it's about now. It's about the experience. It exists in people's experience. I don't expect it to last beyond my lifetime. And I think, well, I don't know if that's necessarily its purpose. You know, I mean, obviously, any artist would like to feel that they have a legacy that carries on after their life, but I don't think that's going to happen. These aren't grandmasters, you know, they're not old famous paintings. In those days, in old times, grandmasters, you know, impressive paintings were impressive because people didn't see two-dimensional images. You know, now we have photographs on our phones, 2 billion photos every year. So for us, we're used to seeing real life in two dimensions. So we don't really have anything equivalent to old masterpieces. And all I can hope for is that I provide people with a good experience, something that touches them, even if it's only enjoyable. Maybe it could be intriguing as well. But yeah, certainly I don't aim to make things that are very long-lasting.
J'avais envie de te poser une question, Seb. Merci encore de traduire, parce que mon anglais est vraiment trop lamentable, je ne peux pas être bilingue là. Quand Seb se pose la question de cet intérêt de l'enjoy du pratiquant, et donc d'une sorte de finalité qui consisterait à ce qu'une production artistique mette les gens dans ce sensible et dans cette notion du beau, est-ce que... Alors, ma question va faire un peu écho à la démarche que nous avons au sein de Bouillant, c'est-à-dire que la programmation que nous faisons avec Sophie est bien souvent un choix très clair, et j'espère que vous aurez la curiosité d'aller sur notre site pour le constater, voire même mieux d'aller sur les sites de présentation des différentes pièces. Vous verrez que nous sélectionnons aussi des artistes qui ont pour particularité d'être à considérer que l'art est politique, c'est-à-dire que la production sensible n'est pas suffisante. La nécessité d'une posture artistique passe aussi par l'engagement d'une réflexion intellectuelle du pratiquant de l'œuvre, c'est-à-dire ne serait-ce que de l'observateur ou, dans le monde du numérique, particulièrement le pratiquant au sens physique du terme, et intellect. C'est-à-dire comment cette production artistique m'amène aussi à me poser des questions face au monde et face à une réelle posture politique. On a des dimensions d'ailleurs dans le jeu qui sont assez nourries et assez riches. Donc j'en reviens à mon propos premier. Est-ce que tu peux avoir l'amabilité, Frédéric, de traduire ce que je viens de dire?
That was a long question.
La question est vraiment en synthèse, hein, si je puis me permettre, ça serait de savoir comment...
Ça va être difficile, mais quelle est la question, en fait?
Est-ce que tu penses que la finalité de ta pièce est de considérer à ce que la beauté de ta pièce est un acte artistique en soi et par là même suffisant? Quelle est sa dimension politique, en quelque sorte?
So the question is beyond the experience that you're creating with people, which you consider as being essentially temporary. Is there also a more political dimension in your approach, which would have the goal of making people think intellectually at some aspects of what they're doing at the long term?
I don't think so. Not for my work. I think there are digital artworks that do that very well. An artist called Julian Oliver, you know Julian Oliver? He's based in Berlin. And he makes amazing artworks that are addressing some of the political issues around our technology, particularly things like security and government surveillance, all of those kind of political issues that are technological, and he addresses those incredibly well. And I think if any digital art were to change people's perspective, then or perception, then it would be something like that. But for my work, it's much more, ludique. A new word, I just learned it. Ludique.
Ok, est-ce qu'il y a, avant qu'on passe peut-être à la troisième présentation justement de par Seb, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, quelqu'un qui a un micro peut l'acheminer.
Frédéric, J'avais peut-être pas vraiment une question, mais une remarque. En fait, moi, je suis ni scientifique ni artiste. Je suis une citoyenne lambda qui a découvert il y a 2 ou 3 ans avec Bouillant tout un univers dont j'ignorais, enfin pas vraiment l'existence, parce que dans la quotidienneté on y est confronté, mais toute une dimension, et qui est curieuse en fait effectivement de cela. J'ai accompagné des groupes de seniors pas plus sensibilisés que moi à ces questions, et aujourd'hui à travers l'exposé en particulier que vient de faire monsieur, je crois que ça apporte une dimension vraiment très intéressante et complémentaire à la visite que l'on peut faire à Bouillant des œuvres, enfin la présentation des œuvres en elles-mêmes. Et je me demande, je me réjouis de ce partenariat, parce que je crois que dans le cadre même de cette découverte des œuvres, il serait, en tout cas pour le visiteur que je suis, intéressant d'avoir cette sensibilisation, disons, à la recherche et aux expériences qui permettent de produire en fait les œuvres que l'on découvre. Et en tout cas, c'est un point de vue d'usager citoyen que je présente, et je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas ça mériterait de réfléchir à la manière dont on pourrait du coup sensibiliser plus, parce que c'est aussi les réactions que j'ai eues du public, de se dire mais bon, on sait tout ça, c'est bien ça interpelle tellement sur le comment ça naît, à quoi ça sert, comment ça va évoluer, qu'il faudrait effectivement permettre de décoder un peu plus cela. Et je pense que ça faciliterait et ça encouragerait, en tout cas sûrement, le public à fréquenter encore plus cette manifestation très intéressante.
Merci de cette intervention.
Peut-être juste un petit élément de réponse. Il est assez intéressant de constater qu'en règle générale, les recherches qui sont en appui, ou la science qui est en appui des œuvres d'art et ensuite détournées fatalement un peu par les artistes, sont souvent des recherches extrêmement sérieuses, avec des applications non moins sérieuses.
J'allais ajouter que par rapport à cela, je merci de votre intervention. Je trouve que justement le dimensionnement des enjeux de toutes ces questions qui habitent le numérique et de l'appropriation du numérique passe par cette pluralité d'approches. Donc on rejoint tout ce qu'on disait, et puis tout l'intérêt de cette collaboration, entre autres avec vous, l'INRIA et Espace de recherche. On rentre aussi dans le cadre là de combien ce travail se doit d'être au quotidien et particulièrement structuré. Donc on en revient à cette première dimension que nous cherchons, c'est vraiment la pérennisation d'un espace dans lequel cette confrontation est au quotidien, avec un travail mis en place et qui permettrait, entre autres, par exemple, d'aborder de front non seulement une expo d'art numérique, mais aussi, par exemple, une exposition comme tu viens de le faire, une explicitation. Mais merci, je trouve assez éclairant votre intervention.
Oui. Oui, je voulais juste rebondir sur le dernier transparent là, de Bruno. Très, très bon exposé. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi les vidéos que tu nous as montrées. Je voulais rebondir juste sur le dernier là, que tu as présenté avec les 4 items. Bon, c'est plus à l'écran, mais de mémoire. Je pensais que sur les 4, en fait, j'avais l'impression qu'il n'y en a finalement qu'un seul qui était spécifiquement lié au numérique, sur de mémoire, le 3e sur l'introduction du virtuel, parce que finalement, dans les 3 autres, on les a déjà rencontrés et ça existe toujours dans d'autres formes d'art, même pour des formes d'art classiques. La codification sur certains domaines a évolué au cours du temps. La pérennité aussi, bien sûr, il y a d'autres formes d'art, comme le land art, par exemple, qui sont aussi par construction pas pérennes, mais pour autant pas nécessairement numériques. Même dans des arts très traditionnels, on pourrait presque dire que certaines œuvres peuvent aussi disparaître, malheureusement, ou être détruites. Et puis certaines n'existent aujourd'hui que parce qu'elles ont pu être restaurées. Et l'interaction avec l'utilisateur, c'est des concepts aussi qui ont pu être déjà étudiés, mis en avant, il y a presque un siècle déjà. Donc, mais ce qui est évidemment intéressant avec le numérique, c'est un certain nombre de ces points-là sont démultipliés. L'éventail des possibles est beaucoup plus grand grâce à la technologie. Et puis, je pense qu'il serait intéressant, c'est le troisième item sur le matériel et immatériel. On sent bien qu'il y a une dimension très spécifique au numérique qui serait intéressante à creuser. Et je pense aussi peut-être que le numérique, au-delà de fournir d'autres moyens et de démultiplier des moyens existants, je pense qu'il y a un autre élément aussi supplémentaire, c'est qu'en plus de l'artiste, de l'utilisateur, il y a aussi un système. Il y a un système qui, entre guillemets, a presque sa propre existence et fait que le dialogue n'est plus à deux, mais à trois, parce que le système informatique peut aussi réagir, peut modifier des sorties en fonction de données, enfin, et les artistes savent exploiter ça. Donc je pense aussi qu'une dimension qui serait intéressante à creuser, c'est au-delà de la démultiplication des possibles, le numérique permet aussi une troisième dimension, si je puis dire, où il y a l'artiste, l'utilisateur et aussi un système. Et je pense que c'est une dimension qui serait intéressante à creuser, notamment dans des recherches futures et dans des équipes mixtes.
C'est effectivement le côté interactif et expérience utilisateur où, comme je citais tout à l'heure, l'œuvre réagit. Et réagit parce qu'elle a une certaine capacité de capture de ce qui se passe autour d'elle. Et elle est aussi programmée pour interagir. Et là, c'est le domaine artistique qui crée cette interaction. Tu as tout à fait raison dans ton analyse. Hein. Les quatre points sont parfaitement, tu les as bien analysés. Le matériel versus l'immatériel, c'est effectivement un des points qui est assez spécifique de notre sujet d'aujourd'hui sur l'art numérique.
Très bien. On va donc passer maintenant à la troisième présentation, à la troisième intervention de la matinée. C'est Seb Lee Delisle, maintenant je le sais le dire comme il faut, qui va nous présenter un petit peu des éléments complémentaires sur sa démarche artistique. Une démarche donc où est présente d'une part la dimension collaborative, c'est-à-dire comme vous l'avez pu le voir dans l'œuvre inaugurée, l'intervention de plusieurs utilisateurs fait partie de l'expérience artistique à proprement parler, puis également la dimension ludique, la dimension playful dimension qui permet justement donc à la fois de détourner des scénarios de leur utilisation d'origine et puis de leur donner une nouvelle dimension créative. So I will let Seb give his presentation now, which will be in English.
Mostly. Merci bien. I have 15 minutes.
Yeah,
okay. Okay. Cool. Hi, everyone. Yes, so I'm just going to show you some of my projects. I think that's easiest. I like to call myself a digital artist, numérique, oui? So what that means is that all of my projects are made with code, programming, informatique, oui? Je ne sais pas. Informatique. Ah, c'est bon. So, this is a project called Pixel Pyros. It's digital fireworks. Food d'artifice numérique. Yay. Yay. So, it's a big fireworks display that uses projectors and lasers. Here are some of my laser tests. Look at that. I learnt how to use a laser last year, and now I just want to use lasers all the time. Yeah, because they're so cool. I mean, look at that. How bright is that? And that one is the small one, yeah? Laser petit. Laser en français? Laser. Yeah. Je sais français. Okay. That's the big one. Here we are set up in Brighton. So the screen is 18 meters by 12. So it's massive. Très grand. And every firework is triggered by an audience member. There are bright spots of light. Can you see these lights there? Lumière sur le bottom de la screen. Yeah, très bien. Pardon. You move your arm over a light and a firework comes out. There's the infrared system that I used. There's some infrared lights. I guess that's infrared. Oui? Yes. And so this is what my infrared camera sees, and it can detect the motion of people's arms. Obviously, that light is completely invisible to us. Here's a video. I suppose I should plug in the audio, really. Do you want to give me your audio cable? Yeah? It's just some music. It's not that important. There we are. There you go. You don't even really need to hear the music. But anyway, you can see here the setup that we have. That's us rigging up the screen. We use scissor lifts. What do you call those? You know, ascenseur. And yeah, de chapeau d'âge. Okay. And we took it on tour last year. We did many cities in England, and it was funded by the Arts Council in England. And you can see that the projectors do most of the image, and the lasers are little bright spots, brighter spots of laser. It's a really fun project. It's entirely dependent on the people that are there. There are many different styles of fireworks, so some are more realistic and some are more numeric. And of course, I added a game. With any project I make now, I always add a game. You should just always add a game, that's it. So massive space invaders, massive asteroids, but each bullet fired by a person. Yeah, it's a fun project. At one time, about 25, 30, yeah. It's big. Oh, merci bien. Okay, cool. So that was basically all of my year last year, was this project. Maybe I'll bring it to France. Cergy, near Paris, there is a town that is trying to bring us over. But it's very big and difficult. And expensive. Here's a small project also involving lasers. It was part of a residency in Margate, which is on the east coast of England. It's a dilapidated theme park, you know, amusement park, you know, fun fair, roller coasters and stuff. I had to just make a game. I wanted to make a modern version, a numeric version, digital version of a shooting gallery, you know, a gun rifle range, or yeah. So I bought a gun. it's a BB gun, right? A pellets. That's still scary. It really hurts. If you get hit, it really hurts. So I bought a little one instead. Oh, okay, so this is some maths. The reason I'm showing you some maths is because if I want to make a digital shooting gallery, I need to know where the bullets hit the wall. Yeah, if I'm firing at something, a board at the wall, I need to know where the bullet hit. Où est le bullet? Je ne sais pas. Mais mathématique, oui? Oh dear, I'm so sorry. So this is the algorithm. It's called multilateration. Multilateration? Hey. And it's used to calculate the source of a sound using multiple microphones. So here's the project after I set it up. In the end, I used these Nerf guns, foam bullets. It's a toy gun. But you can see it's firing real projectiles, and the board has some microphone sensors on it, and it can figure out where the bullet hits. It's an, you know, another game, right? So this was an experiment I had about 2 weeks. Oh, I added asteroids. You have to. Oh, I just spent all weekend picking up those bullets. Yeah, tidying up. So that's the microphones you can see there. And you can see some of the calculations that go on. Yeah, so that's a fun project. I'd like to actually take this further and do a version with paintball guns. You know, paintball? Yeah. That actually draws a picture. You know, so my computer would move the targets around to make a picture. I'm still working on that. Okay, now this was an introduction to a conference, and it was just a chance to play with some lasers, so I took it. And so it was in Oxford Town Hall, see this beautiful domed building, and it was unusual because it was not interactive at all. But it was still all generated in real time. Yeah, it wasn't pre-rendered. It was all done by the computer in real time. And the idea was that we'd have an animation on the screen, but halfway through the show, the lasers would break out of the screen. It would be a complete surprise. Look, here it comes. Yeah, so using the laser, we can actually extend the screen. And it was all 3D mapped onto the building as well. So you'll see in a minute, there is a pipe organ. And I turned it into a graphic equalizer, right? You just have to. So you can see there, I've actually modeled the space in 3D, so I can map the laser onto it and make it look, you know, fit perfectly to the architecture. And that's just one laser. Just one. Really big. And expensive. Of course. Bien sûr. And of course, particles. Yeah, particles. Yeah. Particles. Okay, cool. I'll skip that. Now, of course, we have lunar trails. Lunar trails is, you know, outside. So this is Lunar Lander. You saw it. This is actually an original arcade cabinet of Lunar Lander. This is mine. I own this. I bought it on eBay. Yeah. It's in Los Angeles. I can't get it. It's too far. And expensive to ship, right? It's stuck. It's stuck in LA. But my friends are looking after it and enjoying it. So that's fine. So this is the game, the original game. You've seen it. You can play it for yourself online at there. moonlander.seb.ly, and you saw outside the viewer. So there's this viewer here. Oh, look, that person there is playing this game right now. Oh, they crashed. If you play the game now, I should be able to see you. But there's some extra data here. You can sometimes see where they come from if I scroll up. There you go. Some people playing this game from Germany, South Africa, undefined. I don't know where that is. Yeah, it's a fun project. So it started off like this. It was me. I made a recreation of Lunar Lander on the internet, and it's very popular. 30,000 to 50,000 people play it every month. And I just wondered what would happen if I started sending their data across the internet in real time. So this was me looking at that data of everyone playing the game. And I discovered by accident that if I drew their paths, if I left a trail, then it would create these beautiful images. So I loved this. I loved this accidental artwork. And I wanted to turn it into a bigger project, an installation, which actually, you know, like the one outside, has a physical presence, not only in the game arcade machine, but also in the big drawing machine. Yeah, so I'm taking something that initially existed on the internet, and now I brought it into real life and made it bigger. Always bigger. So yeah, obviously it's quite a complex project. There was a lot of, I had to make the arcade cabinet. Did you know you can buy flat pack arcade cabinets? You can just buy them. It's good. Easier. But I had to make the control panel myself. It's unusual for a computer programmer like me to have to do woodwork. But I love it. And I've also, so there's the cabinet, and there it is the first time. Then of course we wanted to make this drawing machine. So I started with an open source project called Polygraph by Sandy Noble in Scotland. And I bought one. I bought this kit. It's very small, but it was a start. And it makes beautiful images like this. This is the Polygraph. Check it out. I experimented with lots of pens. Beaucoup de stylo. But then we realized we'd have to make a better version of the drawing machine. So I got together with an engineer called Paul Strotten, who's in the audience. Hi, Paul. He's at the back there. And he's thankfully brilliant at engineering. Oh, that's him on the video. I thought he was talking to me, but it's on the video. He's saying stuff that I'll turn it down. It's just going to confuse me. So this was version one of the machinery. And for the installation here, we've made a completely new set of motor units. So if you look outside, the new motor units don't look like this. They're the new version. Look at that. That was the old version. That's my wiring. There you go, that's our first test with it. Oh, it's working. This is calibrating. Let's see how that works. Is it going to work? Go on, there you go. Oh no, it's all gone wrong. God, real life, like physical stuff. It's really hard. Très difficile. There you go. So this is just lots of tests. That's us fitting it in Dublin. Yes, so I think you kind of know this project, right? Because you've just seen it. But here's the video anyway. Go! That's so scary. kids just grab it, right? It's like, oh my God, let go. It's scary. Okay, so I want you all after this to go and play the game, yeah? It's really hard. Let's see if you manage to do it. Okay, so I've run out of time. I did some small versions. I forgot I meant to say that. This is a plotter I have at home. It's from the 80s. It's really cool. So there's some close-ups. That's all I have time for. Merci bien.
That's perfect. Bon, effectivement, comme dans l'art, comme dans la recherche, le temps peut être un petit peu élastique. Là, on a légèrement déjà dépassé, mais si vous avez quand même une ou deux réactions, une ou deux questions déjà à poser maintenant, et sinon nous pourrons de toute façon continuer la discussion autour du pot qui est servi ensuite. Donc une ou deux questions, une ou deux réactions par rapport à cette dernière intervention. En particulier peut-être sur le côté ludique et sur la façon détourner des scénarios qu'on a les uns et les autres pu connaître dans notre enfance et pour créer des choses qui sont tout à fait à la fois familières mais complètement nouvelles d'un point de vue conceptuel.
Moi je me permets d'un point de vue personnellement de noter que la dimension justement ludique elle est malgré tout habitée par une volonté d'être dans une surdimension. Et donc par là même de faire que des inconnus, une foultitude d'inconnus se retrouvent dans une posture à être tous ensemble. J'avoue que c'est peut-être la dimension qui m'intéresse le plus dans ce qui a été présenté, personnellement.
Do you plan to use a 3D game in extension to your work? 3D games.
3D games?
Yes.
Well, I have worked in 3D in the past. There might be some 3D projects for sure. I've long been fascinated by vector art. You know what that is? Vectors. So not bitmaps, vectors, yeah? So like this, line drawings, and like a plotter, it moves around. And I'm fascinated because obviously lasers work like that too. And of course, you know, a little after Lunar Lander, they started making 3D games, which had that wireframe aesthetic, which is beautiful. So yes, I'm sure I'll be investigating more vector-based artworks and looking at 3D shapes.
It's the old way to do 3D.
Yeah, well, and in fact, vectors is, whenever a new technology comes out, it's usually vector-based, yeah? So if you think about the early plotters, like my plotter from the 80s, vectors, and in the 80s, that was the only way to get a really good quality line drawing. But pixels now are so small that you don't need vectors anymore, you don't need plotters. And it's the same with screens, with TVs. The Lunar Lander screen, the original, the cathode ray moves around to draw the shapes, unlike modern TVs, which scan lines, pixels. You know, so it starts with vectors and then turns into pixels. And I'm seeing that now again with 3D printers, which are vector-based, because they move around in shapes, building up layer upon layer. And in the future, I think 3D printers will be voxels, you know, 3D pixels, and they'll be so small, so then this vector will be obsolete. It's a fascinating progress. Yeah, evolution, yeah.
Bon, peut-être une dernière réaction de Bertrand.
Well, in fact, two reactions, two things to say. Seb, I don't know if you're aware of that, and I think you're leaving tonight, right?
This afternoon.
Unfortunately, because at the same time, there is the Laval Virtual Exhibition, which is in Laval, 70 kilometers from here. And I don't know if you ever visited that. And probably you would find some interesting ideas for future pieces. But never mind, it will be for another time, I guess.
How long is it here?
Until Saturday, I think. Saturday, Sunday.
We're coming back in 2 months.
No, okay. Yes, there will be other opportunities. Now, the second thing is that when I look at the people doing the fireworks, or acting on the fireworks or looking at them, I see people really smiling. I see they're having fun. Mm. And I just hope that the people, I will see the same faces here and people will have fun with the installation that we have. So I think it's
great. I hope so too. It's a really powerful experience. It's obviously, it's not, you know, to just bring people in the moment, you know, to have them experience that moment and be engaged with something. It's a really powerful feeling. It's a really beautiful thing. Although it seems insignificant, it can be, you know, it's a really nice thing and it's something that I love in my work.
Très bien. Eh ben, je pense que compte tenu de l'heure, à moins qu'il y ait encore une intervention brûlante, je vous propose de passer à l'étape suivante, de remercier nos intervenants pour leur participation. Et donc, bien sûr, les discussions peuvent continuer autour du pot qui est servi à l'extérieur. Merci à vous tous.
Et merci aux deux Frédéric qui ont permis la mise en place et le déroulé. Donc Frédéric et Frédéric en régie. Merci.